Give me a C. Give me a K. What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. But I'm planning to go away.
Bonsoir, bonsoir, chers amis auditeurs de Canal Sud. Vous êtes en train de écouter les premières mesures. Des mesures courageuses des bébés dinosaures.
Tu vas pas nous refaire une imitation de Giscard.
Non, non. Des bébés dinosaures. Et des bébés dinosaures avec une émission qui provient des couches profondes du crétinacé inférieur. Et,
absolument, je confirme.
Voilà, pendant une heure et demie au rock'n'roll des années 70. C'est sur Canal Sud. C'est sur Canal Sud. Putain,
on sait même plus en fait.
Ouais, je comprends, avec les 43 stations sur lesquelles on a travaillé.
voilà, au cours de notre fructueuse carrière.
Ouais. 92.2 MHz tous les dimanches de 21h30 à 23h. Dans la précision et l'organisation. Oui, monsieur. Si. Et puis, comment dire, I Love the Dead. Alors ce soir, je crois que ça va être Nécro à tous les étages.
Ah, dis donc, ouais, ça tombe comme un gravelotte là. C'est terrible.
Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que. Bah, allez, un petit peu de Rocky Erickson, et puis ensuite on rentrera dans le vif. Enfin, dans le mort du sujet. un 45 tours de 77 de Rocky Erickson.
Oui, avec le 45 tours Virgin, fameux.
Voilà, avec d'un côté.
Pas facile à trouver. Hein.
Et de l'autre, Bermuda. Eh bien, écoute, je l'ai trouvé un jour. Je sais pas quand. Visiblement, ça peut être pour cher. Et puis voilà, il était dans ma discothèque, quelque part. Donc, Rocky Erickson, avec la température qu'il fait aujourd'hui, je passe Bermuda, bien sûr.
Apparently you like it. That's the way of Bermuda. Are you triangle. It dares you to come now, that's its angle. But the devil is in the sun like a mirror. And the word you want is master, master, master in my mirror. Are you going to Bermuda? Would you go there if you could now, now? If you go there, plan on staying. Apparently you like it. Master, where's Bermuda?
Bermuda, donc ce single de chez Virgin en 77, Rocky Erickson avec une première version des Aliens en tout cas. Et malheureusement, quelqu'un d'autre qui est mort récemment.
C'est Dr. John. Ah, une légende quand même. Hein.
Ah ouais.
Une légende de la Nouvelle-Orléans, mais de la musique tout court. Une longue, très longue carrière, puisqu'il avait démarré dans la fin des années 50. Et quand il est devenu Dr. John, il avait déjà une carrière sous son vrai nom, Mac Rebennack, comme musicien de studio essentiellement, mais aussi en sortant quelques 45 tours, dans un registre très New Orleans, rhythm and blues, etc. Il a une réputation de guitariste de studio confirmée, qui malheureusement s'est arrêtée le jour où il a pris une balle, on en parlait hors antenne là. Il a pris une balle dans le doigt, une balle perdue lors d'une heure X dans un bar louche. Et donc, il s'est mis à la basse par la suite, puis au piano, avant de reprendre la guitare. Mais par la suite, il sera devenu connu sous le nom de Dr. John. Et s'il a continué à participer à des tas d'enregistrements de différents copains, de différents groupes, il a arrêté de faire le musicien de studio. Il était devenu une espèce de star. C'est lui qui, dans un de ses albums, a invité des tas de musiciens britanniques totalement prestigieux. C'était une légende donc qui a continué une carrière très très respectable. Hein. On en parlait la semaine dernière, son album de 2010-2012, je ne sais plus. Le dernier de lui que j'ai pu écouter était vraiment fantastique. C'était un album absolument génial. Le tout dernier, je ne le connais pas. C'était paru quelques années plus tard. Mais donc, il a continué à enregistrer et à faire des albums très, très très respectables. Là, on va le retrouver donc, dans sa deuxième carrière, en quelque sorte, quand il est devenu Dr. John. Dr. John the Night Tripper, et qui s'est lancé dans un trip vaudou. On sait que le vaudou à la Nouvelle-Orléans, c'est quand même important. Et alors là, il n'y est pas allé quand même avec le dos de la cuillère, avec son album, son premier album sous le nom de Dr. John, en 68, Gris Gris. Ce sont tous des morceaux complètement hypnotiques, envoûtants, bizarroïdes, dans la tradition du vaudou de la Nouvelle-Orléans, avec toute une bande de musiciens qui présentent au début, dans un texte là absolument incompréhensible, on va dire, qui est sur la pochette du disque, là, il présente ses musiciens. Alors, je voulais vous dire quand même qui l'accompagne, parce que c'est un sacré. Comment dire? C'est une sacrée troupe. Non pas que je les connaisse, hein, mais c'est rien que leur nom, tu vois. T'avais Dr. Poupadou of Destine au tambourin, t'avais Dr. Ditmus, Dr. Boudreau, Dr. Baptiste. C'est une sacrée bande là déjà. Hein. Dr. McLean, Dr. Mann, Dr. Bolden, The Baron of Ronyards. Il y avait Dido, il y avait China, Concy O'Leary, il y avait Shirley Marie Laveau. Alors les Laveau, attention, c'est toutes des sorcières. Hein. Il y avait Dr. Durden, il y avait Gouverneur Place Johnson, Sénateur Bob West Boeing.
Il n'y a pas professeur Longuerre dans le paquet, non?
Que des pontes. Ah bah c'est que des pseudos, alors je ne sais pas qui, il faudrait fouiner, je ne me rappelle plus maintenant qui jouait exactement sur ce disque. Mais tu avais John Gumbo, Sister Stephanie, Sainte Teresa, il y avait même des saintes avec lui, Cecilia la favorite, Carla Le Jean, etc., etc., etc. Et puis bien sûr, quelques zombies de passage. Le premier album de Dr. John, donc son premier album Vaudou, il y en aura quatre, hein, un petit peu inégaux par la suite, mais celui-là est vraiment fantastique, enfin à mon goût en tout cas, si on aime les morceaux envoûtants et hypnotiques. En voilà un plutôt joyeux et dansant d'ailleurs, ça s'appelle Dance Kalinda Daboom, et c'est donc Dr. John en 68.
Times brighter than the day, and behold, a mighty sun.
Pride of Man. Ils ne l'ont pas écrit, mais ils ont donné sans doute la version définitive. C'était le Quicksilver Messenger Service en 1968, avec bien sûr à la guitare John Cipollina. Et à la demande d'un de nos auditeurs occasionnels et à distance, et avec un petit peu de retard, nous célébrons le 30e anniversaire de la mort de John Cipollina, qui a eu lieu le 29 mai 1989. Ouais.
Voilà.
D'accord. Donc
très léger retard.
C'est de la nécro avec un peu de retard. Mais tu sais, bon, c'est pas très rapide. L'influx nerveux de la tête à la queue chez un dinosaure, ça prend du temps. Voilà. Donc, 30e anniversaire de la mort de John Cipollina, qui était un guitariste au son unique. Son unique parce qu'il avait bricolé ses amplis lui-même. Et puis, par la manière dont il jouait aussi. Il est surtout connu pour son travail avec Quicksilver, mais on va s'écouter quelques-uns des autres groupes dans lesquels il est intervenu au cours des années.
Très bien, mais on a un groupe dont les membres ne sont pas morts, ou pas tous en tout cas, puisqu'ils sont de retour.
Ah zut.
Les Hollywood Stars.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont pas eu besoin de, comment dire, de percer le cercueil et de creuser à travers la terre pour ressortir, comme le fera Dr. John, certainement.
Oui, 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 on peut l'espérer, oui. Hollywood Stars, c'était un de ces groupes managés par Kim Foley, essayant de refaire le coup des Runaways. En fait, il en a managé pas mal, quand même.
Je pense que...
Bah,
il a peut-être démarré
à la même époque,
avant les Runaways, hein, parce que c'est en 73 qu'il a démarré les Hollywood Stars.
Ah, c'est peut-être juste avant, alors les Runaways, c'est 74, 75,
ouais,
les tout débuts.
C'est un groupe qu'il a fabriqué en ce sens qu'il a fait se rencontrer les gens, qui a dit « Ouais, toi, il faut que ça soit toi, il faut que ça soit toi ». Mais ensuite, évidemment, ils se sont débrouillés tout seuls. Et ce qui est remarquable, c'est que les survivants, en tout cas, ne se plaignent pas du tout de Kim Foley. Ils disent « Non, non, il nous a pas embêtés, il a fait le manager, c'était bien enfin, ».
Oui, oui, en bref. Bon, enfin, bon, il n'a pas eu un énorme succès non plus. Les Runaways ont été l'exception, quoi. Hein. Il y a eu Venus and the Razorblades, puis il y en a eu d'autres. La deuxième incarnation des Runaways, qui a été une catastrophe. Et les Hollywood Stars, qui ont eu donc un destin assez compliqué, hein, avec pas moins de 2 albums perdus, en fait, quoi, non sortis, qui sont réapparus, bien sûr, par la suite, et un album officiel, à vrai dire, que je ne connais pas.
Bien sûr, c'était pas évident. Tu sais que le premier, qui a été enregistré en 1974, à l'époque où leur chanteur, c'était Scott Farris, un gars que Kim Foley avait choisi pour démarrer le groupe parce qu'il s'était fait arrêter pour conduite indécente à l'issue d'un de ses concerts.
Oui, c'était un critère comme un autre. Hein.
Ah, bah, c'était le critère de Kim Foley. A dit, tu peux provoquer une émeute chez les nanas, tu es mon homme.
Bon, ça n'a pas trop marché.
Alors, et donc, qu'est-ce que je racontais ? Donc, il a contacté ce gars-là et ensuite il a rassemblé des musiciens autour de lui. Et puis, il a fait écrire des chansons par Mars Bonfire pour leur premier album. Et qu'est-ce que...
On sent que tu as préparé un petit article pour Digit.
Non, non, mais tu faisais une remarque. Ah, j'ai complètement oublié ce que je voulais raconter. Bon,
c'est pas grave, c'est habituel. Ne t'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. C'est quand tu te rappelles qu'on s'inquiète, en fait. Et donc, je voulais justement parler de ce premier album perdu, celui enregistré en 1974.
Et comment a-t-il été retrouvé ?
Ah, oh bah tu vas nous le dire.
Eh bien, c'est Robin Wills, des Barracuda, qui tient un blog. Et un blog sur le glam, le power pop, les choses comme ça, qu'il aime bien. Et en 2013, je crois que c'est Scott Farris, ancien chanteur, qui était toujours là, qui lui a écrit « Mais tu sais, j'ai toujours la bande d'origine du premier album. » Ah, Robin Wills lui a dit « Mais il faut absolument le rééditer, etc. » Et ils se sont débrouillés pour qu'il soit réédité. Robin Wills a fait une critique absolument élogieuse. Et c'est sorti sur un label dont j'oublie le nom, mais ça existe toujours et ça s'appelle...
Shine Like a Radio.
Voilà.
Voilà, donc The Great Lost 74 album des Hollywood Stars. Donc enregistré en 1974. En fait, je connaissais le nom de Michael Anthony et de Kim Foley par la même occasion, bien avant d'avoir entendu parler des Hollywood Stars. Hein. Car il y a un morceau sur cet album donc, qui n'est jamais sorti, qui sera repris peu de temps après, en fait, par un groupe beaucoup plus connu, mais on sait qu'on en parlera tout à l'heure, bien sûr.
Tu aurais pu remarquer le nom aussi, parce qu'ils ont écrit des chansons après, hein, pour les Runaways, justement.
Oui, 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 oui. mais si tu veux, j'ai connu le groupe en question avant les Runaways.
C'est un indice.
Voilà, je l'ai connu assez tôt. J'ai connu quand j'avais 12 ans, quoi. Donc, et que je n'écoutais que les Beatles à l'époque. Quoi. Les Beatles, la variété de l'époque, un peu de disco de temps en temps,
tu sais,
tous les tubes et
mais
tout.
Mais c'était pas celui qui portait les culottes courtes dans les deux groupes que t'écoutais, c'est ça?
Alors là, j'ai rien compris. Tu m'expliqueras tout à l'heure, mais je pense que tu as raison.
Quel est le musicien qui est connu pour ses culottes courtes?
Ah bah, Angus Young.
Eh ben voilà. Donc c'est pas celui-là.
Non, c'est pas celui-là. Non, Angus Young, fais voir, 60, connu en 80, c'était un an plus tard. Et donc, on va s'écouter un morceau qui, bon, un morceau pas mal, une bonne mélodie. Assez prenant, mais quand même des arrangements tranquilles, hein. C'était pas non plus des terreurs, hein, les Hollywood Stars. On s'écoute le morceau King of the Nighttime World, donc en 74.
King of the Nighttime World and you're my red light queen. Quel goût charmant.
Ah bah oui, oui, oui. C'était d'ailleurs ce goût parfait à taper l'oreille de gens qui avaient eux aussi un goût tout à fait exquis et qu'on s'écoutera tout à l'heure.
Eh bien, nous avons Jean-François avec nous. C'est notre partenaire silencieux, pour faire l'anglicisme. Qui nous a apporté un truc, alors que même nous, on n'en a jamais entendu parler. Mais il faut dire qu'on est sourd, donc ça aide. C'est un groupe qui s'appelait Muff. Alors, ce n'est pas les Muffs, le groupe de rock alternatif des années 90. C'est Muff sans S, et c'est un groupe de glam britannique des années 70. Qui a sorti en 1974 ce single qui s'appelle Sexy Sexy Lady.
Oh, ça promet.
Ah ouais, écoute, alors je crois qu'on va se l'envoyer entre les oreilles tout de
Sexy
suite,
hein. Sexy Lady par Meuf, ouais, ça vaut le coup.
Ouais, voilà. Moi, ce que je comprends avec parole, c'est que la sexy sexy lady, elle a 14 ans et qu'elle dit « j'ai vraiment envie de le faire avec toi » et le mec répond « faudrait peut-être pas », mais elle dit « mais non, c'est pas grave, alors d'accord
». Oh, bravo.
On touche le fond, hein. Patrick.
Oh, bravo. Là, franchement, attention, hein. Je te ressors du fond et val la semaine prochaine. Hein.
Ah bah écoute, moi, j'ai le chalet. C'est assez explicite.
Il a écrit, bah oui. Il a écrit des chansons.
Dans son album en public, il s'en cachait pas trop.
Hein. Ben, c'est pour ça, quand l'hypocrite Philippe Val disait « Oh non, alors là, vraiment, moi, je ne savais pas tout ce qu'il faisait, je le connaissais à peine. » Enfin, bref.
Ouais, donc Jean-François, qu'as-tu à dire pour ta défense?
On l'a baïonné.
Bon. Il n'y a rien à dire pour sa défense. Très bien.
C'était un morceau bien débile. Hein.
C'était un peu
presque Mongo Jerry par moment.
Mais écoute, moi je trouvais que c'était Hot Love en accéléré, point de vue mélodie, tu sais.
Une guitare qui sonne aussi un peu comme un kazoo quelque part. Original. Bon, tu vas relever le niveau.
Non, toi, qu'est-ce que tu veux dire ?
Non, ça, non. Bon.
Si. Un peu John Cipollina avec son groupe Copperhead en 73, l'unique album. Et le morceau, l'unique album, parce que le deuxième n'a pas été sorti par Columbia. Le premier a été, je crois, un désastre commercial. Et le morceau qui ouvrait les festivités Roller Derby Star, Copperhead. Derby Star, Copperhead, le groupe que John Cipollina avait démarré après 1970, après avoir quitté Quicksilver.
Ben on va revenir à King of the Nighttime World, qui, d'une manière ou d'une autre, est arrivé dans les mains de Kiss. En 1976, ils l'ont repris. Le morceau était signé sur l'album de Kiss, l'album Destroyer. Était signé Michael Anthony, Kim Foley, Paul Stanley, qui, je sais pas, il est crédité sans doute pour certains réarrangements ou peut-être des changements de paroles, et Bob Ezrin, qui était le producteur de cet album, Et évidemment, de la trame de départ, et le morceau de Kiss lui est un petit peu différent, un peu plus velu, on va dire. Des guitares un peu plus musclées. Et puis le son, comment dire, majestueux de Bob Ezrin. Et c'est devenu un tube, enfin en tout cas un tube sur scène, un morceau qui jouait sur scène pendant des années et des années. Il y avait toujours King of the Nighttime World. Et souvent en début de concert, et souvent après Detroit Rock City, comme sur le disque studio. Donc vous allez entendre la fin de Detroit Rock City avec l'accident de voiture qui conclut le morceau. Et le Larsen qui annonce le King of the Nighttime World, revu et corrigé par Kiss en 76. King of the Nighttime World, la version de Kiss, donc, qui est devenue un classique de leur setlist, avec notamment ce final là. Attention, celui-là, on en reparlera peut-être. Avec le final, tu sais, où il dit I'm the king. Oh, t'as vu ça sur scène, franchement, c'est absolument un passage absolument génial. Alors, avec les poses de Paul Stanley qui a rajouté des tonnes, tu sais. T'as... Il flamboyait sur scène et tout le public braillait I'm the king, c'est un truc jubilatoire total. Ils avaient le don pour ça quand même, il faut bien l'avouer.
Ah, eh oui, there's no business like show business.
Ah.
Où en étions-nous? Eh ben écoute, moi je continue avec John Cipollina, 30e anniversaire approximatif de sa mort. Et dans les années 80, il s'est retrouvé dans un super groupe, un super groupe qui a eu aucun succès, hein, je te rassure.
Bah, les super groupes des années 80 faits par des anciennes stars des 60s ou des, c'est jamais très très bon. Hein.
C'était des stars sur le retour et c'est pour ça qu'ils ont choisi le nom qu'ils se sont choisis. Alors, tu avais Spencer Dryden, batteur du Jefferson Airplane. Mm-hmm. Peter Albin, bassiste de Big Brother and the Holding Company. Mm-hmm. Barry Melton, guitariste de Country Joe and the Fish. Kenny Adams.
Oui, bien sûr. Voilà. Oui.
Et Robert Hunter, qui avait été le parolier du Grateful Dead et qui avait fait des albums avec Jerry Garcia, etc. Et John Cipollina, la guitare. Alors, c'était Robert Hunter qui écrivait les chansons, en fait, les quatre autres. C'était un peu genre, ouais, on va reprendre des vieux blues, etc. Et bien sûr, comme c'était des vieux chevaux sur le retour, qui faisaient des jams et qui plaisaient bien au public, alors ils tournaient qu'autour de San Francisco. Hein. Et ben ils se sont appelés Dinosaurs, bien sûr.
Eh oui.
ils ont quand même sorti un album.
C'est un disque que j'ai, mais que je n'ai écouté qu'une fois.
Hein. Ben moi aussi, je peux t'avouer que
je
l'ai mis dans la réserve.
Il y a une belle pochette.
Une pochette avec des dinosaures dessus.
Absolument,
bien sûr.
Voilà. J'avais acheté un peu pour
et
ça.
Et alors, eux aussi bénéficient d'un petit cercle de fans, comment dire, d'un culte sur Internet.
Alors là, franchement, les gars,
non, mais
là, c'est du vice. Hein.
C'est parce que John Cipollina adore.
Ah bah oui, mais bon, quand même.
Et Robert Hunter aussi, qui est lui-même révéré par beaucoup de gens, qui est toujours vivant d'ailleurs. Et donc, on va s'écouter un de leurs morceaux en public.
C'est-à-dire
quoi,
c'est pas un spécial
83.
Robert Hunter, un de ces quatre, là. Alors là, moi, je vais sécher. Hein. Je ne vais pas sortir mon disque des dinosaures. Hein. Je passerai du Kiss. Donc. Excuse-nous. Hein, oui, tu disais
Je sais pas. Il y a ton chat qui s'étouffe dans le fond du studio, là. Bon. Oh, donc, ça s'appelle un morceau qui s'appelle Slack String Quartet. Ça veut dire un quatuor à cordes mollasson.
Ah,
et
oui,
c'est
bah,
visiblement un morceau de.
Ça fait envie!
Non, mais tu vas voir, le morceau est tout à fait défendable. Et donc, avec John Cipollina à guitare, bien entendu.
I'm up to see. millions of her all look like you. You say it's all the rambles on the road. Oh, we were thinking it's a old sweet home. Black string Cortez. I say, what did you think you did?
Donc, Slack String Quartet.
Ah, je me souvenais pas des dinosaures comme ça. Là,
alors, ce morceau n'est pas sur leur album.
Ah,
hein,
ben
c'est
voilà,
un enregistrement en public, donc de qualité, comment dire, douteuse, qui a été fait dans un club qui s'appelait Cobos en février 1983, je crois. Bon, voilà. Et tu trouves ça sur Internet.
Ouais, j'ai trouvé guitare bien rugueuse, là, un morceau assez tendu, c'était bien. Par contre, l'album, hein, on vous le recommande
l'album,
pas.
Ouais,
c'est
ouais.
Vraiment quand même. Sauf pour les ultra fans.
Ils ont dû l'enregistrer à un mauvais moment, ou alors peut-être que les producteurs les ont payés en avance.
Ah,
ça c'est très mauvais.
Ah.
Faut jamais payer les musiciens en avance. Bon, parce que l'argent part en fumée, n'est-ce pas? Ou il est réinjecté, mais pas dans le circuit économique.
Oui, c'est ça, oui.
Enfin, en tout cas, pas dans l'économie au-dessus de la surface. Bien, Jean-François, tu nous as présenté, tu nous as amené un nouveau morceau. Eh oui, merci Jean-François.
C'est pour les professeurs et les instituts.
Ah, eh ben merci.
Eh ben c'est vrai que, en tout cas, un certain nombre d'enseignements sont fermés pour les épreuves du bac qui commencent demain matin. Et donc, school's out.
School est fini. Is out.
School is out. Et c'est pas le school's out d'Alice Cooper.
Ouais.
Je suis désolé, j'aurais voulu apporter le 45 tours de Sheila pour... non, bon, enfin... Bon.
Non. Quand même. Non, c'est pas dans la période. Non. Je...
Ouais, puis
je mets mon veto.
Elle était habillée à l'époque.
Je préfère quand même Sheila des années disco, c'est vachement mieux.
Ah ouais.
Beat Devotion.
Non, c'est une blague. Par contre, au niveau des costumes,
mais non,
c'est vrai
elle n'avait pas de bide, elle en faisait, mais.
elle avait
des shorts super courts à l'époque.
Ah oui,
Wonder Woman.
Et puis les couleurs bien assorties, enfin, ça donne un goût parfait.
Je me rappelle de l'album où sa couverture a été en parachute.
Ah, il a un album de Beat Devotion, c'est ça.
Non.
Tu t'es trahi.
Je l'ai vu aux Nouvelles Galeries.
Tu t'es trahi.
Non, là. Ça se trouve, il y en a deux.
De toute façon, quand il y a une sorte de couverture, quand il y a une femme en short avec un gros décolleté, tu peux y aller. Ton boy,
c'est très Wonder Woman.
Il regarde, voyons, on est 70. Bon, allez, hop, je prends.
Si ça coûte moins d'un euro.
Ah, bah oui.
Parce que je dois avoir quelques gels avéronnés. Bon. Donc, on est sur
on s'est fâché avec tous les avéronnés et tous les fans de Sheila. Putain, on est bien barrés.
Bah, tous les Aveyronnais sont fans de Sheila.
Oh non, là t'es dur là quand même.
On va te dénoncer. On va te dénoncer à notre ami Cook.
C'est mon voisin en plus.
tu es en grand danger. Hein. C'est Ray Cooder qu'on passe, c'est pas Sheila. Ça s'appelle School Is Out. C'est un album live en 1976.
All day with my buddies, I can do the things that I want to do, cause all my cares are through. Well, I can root for the Yankees from the bleachers, and don't have to worry about teachers, and I'm so glad that school is out. Well, I'm gonna sing and shout,
school is out,
yeah, everybody gonna have some fun,
school is out,
everybody gonna jump and run,
school is out,
come on people, don't you be time to take my girl out on a date.
School is out at last. I'm so glad I passed. Hope everybody come and go with me. We're gonna have another day, gee.
Thank you.
Convainquons-nous.
Ray
Cooder, School Is Out. Ouais, Ray Cooder, c'est une légende vivante de la guitare. C'est une encyclopédie de la musique traditionnelle. Mmh. Non seulement américaine, mais mexicaine. Enfin, américaine,
hawaïenne.
Mexicaine, hawaïenne, pakistanaise, africaine, tout ce que tu veux. Enfin, il a joué avec tout le monde.
Avec les Stones aussi.
Et puis, oui. C'est lui aussi. Il a joué avec les Stones sur Beggar's Banquet, je crois. Et,
ouais, sur Sticky Fingers.
Je sais plus, mais...
Bon, je sais pas. Enfin, il me semblait que c'était sur les albums où il y avait un petit côté plus roots des Stones. Parce que lui.
Quand il y avait la slide, c'était souvent lui. Quoi.
C'est aussi lui qui a ressuscité et fait sortir de Cuba le Buena Vista Social Club. Mmh. Hein, ouais, quand même. Donc, voilà. Et il continue de faire des albums pas mal, assez politiques, tu vois, avec du blues bien mordant sur les faiblesses de l'époque actuelle. Voilà. Je vous recommande, si vous trouvez des albums récents de Ray Cooder, ils m'ont jamais déçu jusqu'à présent.
Et maintenant, on va s'écouter sans transition vraiment les Eagles of Death Metal, qui bon, sont un peu moins respectables quand même, il faut bien l'avouer. Et qui ont été, hélas, dans l'actualité après l'attentat du Bataclan, hein, puisque c'est eux qui jouaient ce soir-là. C'est un groupe assez marrant, même si le chanteur, le leader, n'a pas l'air très sympathique. Les déclarations, quand même.
Ah ouais.
Bon, enfin, bref. Mais, ouais. Mais au niveau musical, c'est pas trop mal. Parfois, en tout cas, par moment. C'est inégal. Il y a des bons moments. Mais là, ils ont sorti un album de reprise.
Ah.
Qui s'appelle Boots Electric, The Best Songs We Never Wrote. Les meilleures chansons qu'on a jamais écrites. Et il y a de tout, hein. Il y a à boire et à manger, il y a des trucs très bons, des trucs très mauvais. Il y a un massacre de Bowie. Merde, le titre m'échappe. Ce morceau flamboyant là, sur Ziggy Stardust, là, avec ce saut de guitare magique, là, Moon Age Daydream, qui est totalement massacré, mais de façon volontaire. Hein. Il y a aussi une reprise des AC/DC qui m'ont pas trop convaincu, mais dont on reparlera, et puis des reprises de trucs plus différents. Et puis il y en a une autre que j'ai trouvé plutôt réussie là, par contre pour le coup, qu'on va s'écouter tout de suite. Alors Tommy Boy, attention, tu as la mission d'appuyer sur le bon bouton, mais sans regarder, hein, parce que le titre s'affiche là sur le. Là. Va-t-il y arriver ? You efficace.
Ouais,
redoutable.
Un peu accéléré par rapport à l'original. Hein.
Un petit peu accéléré, c'est vrai. Avec ce son minimaliste, là, mais... quand ils ont ce groove-là, c'est vrai que c'est vachement bien. Mais c'est pas tout le temps le cas. Mmh. Après, c'est un très bon morceau qu'ils ont choisi, là, évidemment. Et on s'écoutera l'original tout à l'heure.
Bon, enfin, on a entendu que ça s'appelait God of Thunder.
Ah oui.
On a reconnu d'où ça venait.
Ah oui.
Et par contre, l'album, alors je comprends.
Ah
ah oui, si, ouais, c'est celui sur lequel ils ont eu leur énorme tube qui n'était pas... Non, c'était celui-là ? Non, peut-être pas. Oh, je sais plus. Bref. Allez, un peu de plus de John Cipollina. Cette fois-ci... Alors, normalement, je devrais vous passer un morceau d'une demi-heure, mais on n'a pas le temps. Parce que c'était quand même pour ça que Quicksilver
oui,
était connu.
Oui, s'il te plaît, merci, sois gentil.
Ouais. Avec 20 minutes de saut de guitare.
Ah, oui, d'accord.
Mais, donc, on va vous passer John Cipollina plus modestement accompagnant des copains dans la région de San Francisco, comme il l'a fait le plus cher de sa vie. Et là, c'est Terry Dolan, qui lui-même a connu une carrière tragique, c'est-à-dire il devait sortir un premier album, c'était super, tout le monde adorait ça, etc. Puis, pof, sans explication, la compagnie de disques n'a pas sorti, bon, enfin bref, comme d'hab. Et il a continué avec un groupe qu'il a appelé finement Terry and the Pirates. C'était le titre d'une célèbre bande dessinée des années 30 et 40 de Milton Caniff.
D'accord.
Et dans ce groupe jouait très souvent John Cipollina. Donc ceci est tiré d'une série d'enregistrements en public qui s'appelle Too Close for Comfort, le disque. Le morceau en question qui s'appelle Something to Lose a été enregistré en 1979. Donc il y avait Terry Dolan et aussi Greg Douglas, bon, un autre guitariste dans le groupe. Voilà. We'll be right back. Nothing to Lose. Les. Comment il s'appelle Terry and the Pirates avec John Cipollina à la guitare, qu'on entend bien. Hein. Où étions-nous? Tu devais peut-être nous passer l'original de God of Thunder.
On va revenir à God of Thunder, qui était sur l'album Destroyer. C'est l'album, c'est le morceau dont on a entendu un tout petit bout, là, juste après King of the Nighttime World. Ah, donc, un des grands morceaux de Kiss, quand même. En tout cas, là aussi, un de ceux qu'ils ont continué à jouer sur scène jusqu'à la fin. Avec Shout It Out Loud aussi sur cet album-là, et Detroit Rock City, bien sûr.
Mais attends, ils jouent plus du tout, là, maintenant, Kiss
Ils font une tournée d'adieu.
Ah, quand même.
Donc,
de 2 ou 3 ans. mais j'en sais pas plus, à vrai dire. Ça fait un petit moment que j'ai laissé tomber. Mais ils continuent à jouer. Enfin, ils ont continué plus ou moins à jouer. C'est qu'à une époque, ils étaient tous partis sur des projets très différents. Là. Paul Stanley faisait du théâtre, etc. Enfin, bref. Mais depuis l'album, le dernier en date, qui, ça doit être Monster, je pense, le dernier album studio en date qui a déjà quelques années, ils avaient un peu laissé tomber. Et puis là, ils sont lancés dans une tournée d'adieu. Ils font le tour du monde pendant 2-3 ans, quoi, histoire de se remplir les caisses une dernière fois. Bon, après, Kiss maintenant sur scène, je sais pas trop, franchement. Et puis il n'y en a plus que deux hein, sur les quatre d'origine. Mais
voilà, ça fait un moment que ces deux-là sont les seuls permanents. Et je suppose qu'il y a une équipe d'infirmiers derrière.
Ah ouais, parce que là, les plateformes boot, ça use. Hein. Paul Stanley, il est cassé de partout. Mais bon, donc, c'est plus trop la peine de les voir, je sais pas. S'ils passaient peut-être pas trop loin, je sais pas, par exemple, au Ravelin, peut-être j'irais, quoi, mais bon. Ça...
Qu'ils au Ravelin.
Ouais, mais attends, mais ils pourraient pas monter leur chaise roulante sur la scène.
Ah, bah oui, c'est vrai. Elle est trop haute, elle fait au moins 20 cm. Non, mais enfin, bon, cet album Destroyer, produit par Bob Ezrin, c'est quand même leur grand moment, il faut bien l'avouer. Il y a des morceaux moins connus aussi là-dessus, mais qui sont vraiment bien. Là. Flaming Youth, par exemple. Il y a Do You Love Me aussi, qui a été repris par Nirvana. Qui est un grand moment. Et donc ce God of Thunder qui fait partie de ces morceaux lourds, assez lents, inquiétants, que Gene Simmons chantait souvent avec des morceaux comme She, Almost Human, il y en a d'autres comme ça.
Oui, bah, c'est,
ça fait Charisma, très, c'est peut-être à celui-là que tu pensais.
Très fantasy et choses comme ça.
Oui, 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 oui carrément. Carrément.
Et She, je suppose que c'est une allusion à l'œuvre de Rita Haggard, non?
Bah, sans doute, c'est... oui, alors là aussi, il y a une histoire de démon. I'm almost human, rien que le titre, je suis presque humain.
Presque.
Ah, c'était génial. Charisma était aussi un peu un morceau de ce genre, c'est peut-être à celui-là que tu pensais, sur l'album Dynasty, album plus tardif. Et donc God of Thunder, attention, il y a la production Bob Ezrin, donc des bruitages partout, une espèce d'ambiance totalement effrayante. D'ailleurs, quand j'étais petit, enfin plus jeune, j'avais l'habitude...
Ah, c'était avec celui-là que tu faisais peur à tes petites
sœurs. D'effrayer ma petite sœur en disant, viens, je vais te faire écouter un truc. Et je lui mettais God of Thunder, et elle était là... Bon, elle adorait ça en fait, hein, mais ça lui foutait la trouille. Et vous allez comprendre pourquoi.
On sait pas, tu l'as peut-être marqué pour la vie, là.
Elle s'est isolée dans les ronds, c'est ça. Elle a fui.
Thank you.
Thunder.
Ah, les pétoches quand même.
Ouais, ouais. Ah, c'est sûr. Hein. On craint pour son âme, de toute façon, quand on écoute Kiss. Hein, ah. Ça, de toute façon, ton âme, elle est un peu foutue quelque part. Hein, parce que.
Ou alors, c'est quelque chose.
Faut l'amener vite à la blanchisserie de l'âme, mais ça va te coûter bonbon.
Voilà, sur l'album Destroyer en 76.
Ouais.
Bah, repris donc par les Eagles of Death Metal récemment. Ouais.
Et ouais, j'ai pas eu Van Halen parce que tout est en vinyle et on n'a pas trois platines à la station, donc désolé. Rubric de Kings, alors désolé, là j'ai un petit peu fait les poubelles. Mais quand je fais les poubelles, je viens les déverser à Canal Sud. C'est sympathique. J'ai trouvé une version de You Really Got Me.
Ah oui, il m'a montré la pochette, ouais. Alors là, attention là.
Ouais. Ouais.
Donc je vais aller profiter par l'eau toilette, moi, tiens.
À côté de ça, Bonnet M est respectable.
Ah.
C'est un groupe qui s'appelait Love Fever. Love Fever, belle pochette. Qui a fait une reprise de You Really Got Me. Alors, je sais pas si elle est pire ou meilleure que celle de Eclipse, que j'avais passée il y a quelques années. Mais effectivement, on peut se poser la question. Hein. Donc c'est une reprise disco. Alors il y a Part 1 et Part 2, mais comme la Part 2, il faudrait retourner le 45 tours. Je vais vous l'épargner. Hein, oui, je suis bon. Et on va s'écouter la Part 1 de You Really Got Me par Love Fever. Alors quand je dis la comparaison avec Bonnet M, c'est pareil. T'as un mec et deux nanas sur la couverture. Sauf que le mec, il est blond. Alors c'est
il chante pas non plus. Il fait
ben, je sais pas s'il chante ou s'il danse. Et les nanas, elles sont peut-être là que pour décorer. J'en sais rien non plus. C'est produit par Horst Lubitz pour Starbucks APS.
Ouais, mais
à Hambourg.
Je vais peut-être aller aux toilettes aussi.
Du disco allemand, mais après tout, tu sais, Donna Summer, Bonnet M, tout ça c'était fait, c'était made in Germany, tout ça. Alors donc, ça va pas nous dépayser, on s'écoute You Really Got Me par Love Fever.
You really got me. Oh girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh woman, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh girl, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Oh girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
You really got me. You really got me. You really got me.
Voilà, c'est des You Really Got Me Part 1 par Love Fever. Ça peut continuer 20 minutes, hein. C'est bon pour les discothèques, Coco. Mais bon, comment dire, c'était un document. Le public a le droit de savoir.
Ouais, t'as rien raté.
Où en étions-nous ? Eh bien, attendez. Il faut que ma clé se connecte. Parce que Sylvain nous a privé du meilleur jingle du monde, mais voilà, c'est bon, on l'a retrouvé. Fromage chèvre, notre rubrique qui traditionnellement clôt l'émission. Eh oui, parce que nous pensons à faire dormir les travailleurs pour qu'ils soient reposés pour lundi matin. C'est la rubrique, comme vous le savez, musique trad de toutes sortes, de tous les pays. Du country, du blues, du breton, de l'occitan, du celtique, tout ce que vous voulez. Ce soir, on va écouter les Alabama State Troopers. Il me semblait que ces gens-là, leur instrument préféré, c'est plutôt le sifflet à roulette et la sirène de voiture de police. Mais bon, apparemment, il y avait un groupe qui s'appelait les Alabama State Troopers qui nous...
Ah non.
Oui.
Une année. 71-72.
Et qui ont fait un album en public, en tout cas.
Ouais, c'est un double CD.
Un double CD, carrément.
Mais bon, qui est sorti quand même bien après, quoi.
Ah, qui s'appelle Roadshow. Ouais. Et qui rend compte des activités de ce groupe. Et donc, on va s'écouter Amos Burke. D'où vient ce titre ? Est-ce que c'est un hommage à quelqu'un qui était un musicien ? Est-ce que
c'est mon père.
C'est ton père. Amos Burke. D'accord, merci Monsieur Burke. Bon, donc, en hommage au géniteur de Jean-François, Amos Burke par les Alabama State Troopers.
I never left.
Alors, écoutez, les enfants, je crois qu'on a des gens qui sont très très doués pour la technique ici au Bébé Dinosaure. Donc on va, hop là, on va, je crois, oublier la fin de ce morceau génial des Alabama State Troopers. C'est dommage, mais on va pas le repasser entier parce que il y a eu un petit problème technique là. Et je n'ai pas été assez rapide pour réaliser ce qui allait se passer. C'était la fin de la rubrique fromage de chèvre et c'était la fin de l'émission aussi puisqu'il est 23h. Je vous rappelle que les Bébés Dinosaures passent chaque semaine sur Canal Sud 92.2 MHz dans la région de Toulouse et partout dans le monde sur l'URL www.canalsud.net. Que on peut écouter l'émission en rediffusion 8 jours après les lundis de 15h30 à 17h, que on peut récupérer le MP3, que en principe ça devrait être bon, là, sur le site de la radio Canal Sud, qui, je vous le rappelle, est www.canalsud.net. C'est un site très bien fait, magnifique. Vous pouvez retrouver tout un tas d'autres choses sur les émissions, la grille des programmes, des actualités, les nouvelles des expositions qui se font dans le local de la radio, 40 rue Alfred Duméry, là, à Toulouse. On vous conseille d'écouter Radio Canal Sud autant que vous pouvez, en particulier jeudi soir pour Digite de 21h30 jusqu'à très tard, beaucoup plus tard que nous. Nous, on va se retrouver dimanche prochain à 21h30, toujours sur les 92.2 MHz de Radio Canal Sud. Et en attendant, on vous laisse avec l'ordinateur qui va vous cracher de la musique variée et qui va vous permettre d'attendre jusqu'à la prochaine émission de demain matin. C'est-y pas magnifique tout ça, hein ? Voilà.
Come back. I'll come back. You know I'm back to school. sore, and I could never really go.
No.
Never really go.
He's back.
Never really go. And